Chapitre 34. Les adieux. Lorsque l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique publia en 1997 son rapport controversé, 50 ans d'OVNI, de nombreux critiques remarquèrent que les objets volants non identifiés avaient été observés depuis des siècles et que la description publiée par Kenneth Arnold en 1947, la soucoupe volante, avait d'innombrables précédents. Les gens voyaient de drôles de choses dans le ciel depuis les débuts de l'histoire, même si les ovnis n'étaient restés qu'un phénomène d'intérêt marginal jusqu'au milieu du XXe siècle. C'était devenu ensuite un sujet de discussion pour le public et pour la science, ainsi qu'une base pour ce qu'on est obligé d'appeler des sentiments religieux. Il ne fallait pas en chercher la raison bien loin. L'avènement de la fusée géante et l'aube de l'ère spatiale avaient orienté l'esprit des hommes vers les autres mondes. L'idée que la race humaine serait bientôt capable de quitter sa planète natale faisait venir inévitablement certaines questions. Où vont-ils tous et quand allons-nous recevoir des visites? Il y avait aussi l'espoir, bien qu'il fût rarement exprimé clairement, que des créatures bienveillantes venues des étoiles pourraient aider l'humanité à soigner les nombreuses plaies qu'elle s'était elle-même infligées, ainsi qu'à lui épargner des désastres futurs. N'importe quel étudiant en psychologie aurait pu prédire qu'un besoin aussi profond serait bientôt satisfait. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il y eut effectivement plusieurs milliers d'engins spatiaux observés de par le monde. Plus encore, il y eut des centaines de récits de rencontres, des rencontres avec des visiteurs extraterrestres, souvent embellis de joyeuses excursions célestes, d'enlèvements, voire de lunes de miel dans l'espace. Le fait qu'on pût démontrer chaque fois qu'il s'agissait d'affabulation ou d'hallucination n'ébranlait en rien la foi des croyants. Des hommes à qui on avait fait visiter des villes sur la face cachée de la Lune continuaient à être crus alors même que les sondes orbiteurs et les missions Apollo ne trouvaient pas le moindre objet manufacturé. Des dames ayant épousé des Vénusiens gardèrent leur crédibilité, même lorsqu'on apprit, hélas, que la planète Vénus était plus brûlante que du plomb en fusion. Donc, lorsque l'IAAA publia son rapport, il ne restait aucun scientifique de quelque réputation, même parmi ceux qui avaient été séduits jadis par cette idée, pour croire que les ovnis aient jamais eu le moindre rapport avec une vie ou une intelligence extraterrestre. Bien sûr, on ne pourrait jamais le prouver. N'importe laquelle de ces observations, au cours des millénaires, pouvait être véridique. Mais à mesure que le temps passait, que les caméras et les radars des satellites fouillaient les cieux sans apporter le moindre indice, le grand public se détourna de cette idée. Les croyants, bien sûr, étaient impossibles à décourager. Ils entretinrent leur foi à grand renfort de brochures et de livres, dont la plupart reprenaient et embellissaient d'anciennes observations bien après qu'elles eurent été discréditées ou démontrées fausses. À l'annonce de la découverte du monolithe de Tycho, il y eut un cœur unanime. On vous l'avait bien dit. On ne pouvait plus nier qu'il y avait eu des visiteurs sur la Lune, et donc probablement sur la Terre, à peine 3 millions d'années plus tôt. Aussitôt, le ciel fut à nouveau infesté d'ovnis, même si, étrangement, les réseaux de poursuite de trois grandes nations, lesquelles pouvaient localiser dans l'espace tout ce qui dépassait la taille d'un stylo à billes, étaient toujours incapables de les découvrir. Le nombre des observations retomba assez vite au niveau du bruit de fond, ce qu'on pouvait raisonnablement attendre du nombre des phénomènes astronomiques, météorologiques et aéronautiques couramment visibles dans le ciel. Mais maintenant, tout recommençait. Cette fois, plus d'erreurs, c'était officiel. Un véritable ovni était en route vers la Terre. Quelques minutes après l'avertissement de Leonov, on signala les premières observations. À peine quelques heures plus tard, les premières rencontres. Un agent de change à la retraite qui promenait son bulldog sur les landes du Yorkshire eut la surprise de voir un vaisseau de forme circulaire se poser près de lui dont l'occupant, parfaitement humain, sauf pour ses oreilles en pointe, lui demanda le chemin de Downing Street. Le contacté fut à ce point stupéfait qu'il fut tout juste capable de pointer sa canne dans la direction générale du quartier des ministères. La preuve de cette rencontre étant le fait que le bulldog refusa désormais d'accepter la nourriture qu'on lui présentait. L'agent de change n'avait pas de passé psychiatrique connu, mais même ceux qui l'avaient cru eurent plus de mal à accepter le témoignage suivant. Cette fois, c'était un berger basque, se consacrant à ses activités traditionnelles, grandement soulagé de voir que ceux qu'il avait pris pour des gardes-frontières n'étaient que deux hommes au regard perçant, enveloppés chacun d'une cape, qui lui demandèrent comment il pouvait se rendre au siège des Nations Unies. Il parlait couramment le basque, une langue horriblement difficile et sans rapport avec aucune des langues humaines répertoriées. De toute évidence, ces visiteurs de l'espace étaient des linguistes remarquables, même si leur géographie laissait à désirer. Et cela n'arrêta plus. En général, les témoins ne mentaient pas vraiment et n'étaient pas complètement fous. La plupart croyaient sincèrement à leur histoire et gardaient cette conviction sous hypnose. Certains n'étaient que les victimes d'un mauvais tour ou d'un accident hautement improbable, comme ces pauvres archéologues amateurs qui découvrirent les accessoires abandonnés dans le désert tunisien près de 40 ans plus tôt par un célèbre auteur de films de science-fiction. Ce ne fut pourtant qu'au tout début et à la fin qu'un être humain fut véritablement conscient de sa présence, et parce qu'il l'avait voulu ainsi. Le monde lui était ouvert, pour l'explorer et l'examiner à sa guise, sans la moindre limite. Aucun mur ne pouvait l'empêcher d'entrer, aucun secret ne pouvait se dissimuler aux facultés qu'il possédait. Il crut au début qu'il se contentait d'accomplir de vieux rêves en visitant des endroits qu'il n'avait jamais vus lors de son existence précédente. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il se rendit compte que ces passages éclairs à la surface du globe avaient une autre signification. D'une façon subtile, on l'utilisait comme une sonde pour examiner chaque facette des affaires humaines. Le contrôle était si ténu qu'il en était à peine conscient, et il se sentait plutôt comme un chien de chasse tenu en laisse, pouvant se diriger à sa guise, mais néanmoins aux ordres de son maître. Les pyramides, le Grand Canyon, les neiges de l'Everest baignées par la lune, il les avait choisis lui-même, ainsi que certaines galeries d'art, tel ou tel concert. Mais, de sa propre initiative, il n'aurait certainement pas supporté d'un bout à l'autre la tétralogie. Non plus qu'il n'aurait visité tant d'usines, de prisons, d'hôpitaux, une sale petite guerre en Asie, une course de chevaux, une orgie compliquée à Beverly Hills, le bureau ovale de la Maison Blanche, les archives du Kremlin, la bibliothèque du Vatican, la Kaaba, la pierre noire sacrée de la Mecque. Il y avait également des expériences dont il ne gardait aucun souvenir précis, comme si elles avaient été censurées ou qu'il en fût protégé par une sorte d'ange gardien. Par exemple, qu'avait-il fait au mémorial Liké dans la gorge d'Olduvai? Il ne s'intéressait pas plus à l'origine de l'homme que n'importe quel spécimen d'Homo sapiens, et pour lui les fossiles ne signifiaient rien. Pourtant, les crânes célèbres, conservés comme les joyaux de la couronne dans leur vitrine, faisaient lever d'étranges échos dans sa mémoire, une excitation dont il ne voyait pas la raison. Il avait un sentiment de déjà-vu intense, comme si l'endroit devait lui être familier. Mais quelque chose n'allait pas. C'était comme de retrouver une maison qu'on a quittée depuis de nombreuses années, pour découvrir que le mobilier a été changé, les cloisons déplacées, l'escalier lui-même reconstruit. Un territoire hostile, sinistre, sec et stérile. Où étaient les plaines fertiles et les milliers d'herbivores aux pieds légers qui les peuplaient 3 millions d'années plus tôt? 3 millions d'années? Comment le savait-il? Aucune réponse ne lui vint du vaste silence où il avait lancé sa question, mais il aperçut une forme familière, rectangulaire, qui se dressait devant lui. Il s'approcha et vit l'ombre d'une image se former à l'intérieur, comme un reflet dans une mare d'encre. Les yeux tristes et perplexes qui le contemplaient, au-dessous d'un front fuyant couvert de poils, regardaient plus loin que lui, vers un futur qu'il ne verrait plus. Car c'était lui, ce futur, 100 000 générations plus loin dans le cours du temps. C'est là que l'histoire avait commencé. Cela, au moins, il le comprenait. Mais comment, et surtout, pourquoi certains secrets lui étaient encore inaccessibles? Il lui restait un dernier devoir à accomplir, et c'était le plus difficile de tous. Il était encore suffisamment humain pour le garder pour la fin. Qu'est-ce qu'elle mijote maintenant? Se demanda l'infirmière, braquant la caméra vidéo sur la vieille dame. Elle nous a déjà joué pas mal de tours, mais c'est la première fois que je la vois parler à son sonotone. Bon Dieu, je me demande ce qu'elle raconte. Le micro n'était pas assez sensible pour capter ses paroles, mais elle pensa que c'était sans importance, car Jessie Bowman avait rarement eu l'air aussi paisible, aussi satisfaite. Elle avait les yeux fermés, un sourire angélique, et ses lèvres continuaient à chuchoter. À ce moment, L'infirmière vit quelque chose qu'elle essaya aussitôt d'oublier, certaine d'être professionnellement disqualifiée à jamais si elle le signalait. Lentement, d'un mouvement saccadé, le peigne posé sur la table de chevet se souleva, comme s'il était tenu par une main maladroite et invisible. Le premier essai échoua. Au second, difficilement, le fantôme se mit à démêler les longues mèches argentées, s'arrêtant parfois pour défaire un nœud. Jessie Bowman ne parlait plus, mais elle souriait toujours. Le peigne prenait de l'assurance, ses mouvements étaient moins saccadés, plus doux. L'infirmière n'aurait pu dire combien de temps la scène se prolongea. Sa paralysie dura tant que le peigne ne fut pas reposé sur la table. Dave Bowman, un garçon de 10 ans, avait rendu à sa mère ce service qu'elle aimait tellement lui demander alors qu'il en avait horreur. Et un David Bowman, désormais sans âge, avait commencé à pouvoir contrôler la matière inerte. Jessie Bowman souriait encore quand l'infirmière finit par venir voir ce qui se passait. Elle avait eu trop peur pour venir plus tôt, mais cela n'aurait pas fait la moindre différence.